Chapitre 18. L'amoureux de la petite Dorrit. La petite Dorrit n'avait pas atteint son 22e anniversaire sans trouver un amoureux. Même dans cette misérable prison de la maréchaussée, l'éternel Cupidon avait de temps en temps décoché quelques flèches déplumées de son arc moisi et blessé au cœur un ou deux détenus. Cependant, l'amoureux de la petite Dorrit n'était pas un détenu. C'était le fils sentimental d'un guichetier. Le père de ce soupirant comptait, au bout d'une longue carrière, léguer à son fils l'héritage d'une clé sans tache. Il l'avait initié dès son enfance au devoir de son emploi et lui avait inspiré l'ambition de maintenir dans la famille la serrure du guichet. En attendant cet héritage, le jeune homme aidait sa mère à gérer, au coin de l'allée de Horsemonger, le père, quoique guichetier, ne demeurait pas dans la prison, un petit débit de tabac qui avait une clientèle assez lucrative parmi les détenus. Bien des années auparavant, lorsque l'objet de sa flamme avait coutume de se tenir dans son petit fauteuil au coin de la cheminée de la loge, le jeune John, son nom de famille était Chivery, qui avait un an de plus que la petite Dorrit, lui avait lancé des œillades d'admiration et de ravissement. Lorsque, plus tard, il avait joué avec elle dans la cour, son jeu favori avait consisté à faire semblant de l'emprisonner dans des coins afin de recevoir des baisers réels pour faire semblant de la délivrer. Lorsqu'il était devenu assez grand pour regarder par le trou de la grande serrure de la porte principale, il avait plus d'une fois laissé dehors sur les marches le dîner ou le souper de son père, au risque de voir disparaître les comestibles pour s'enrhumer un œil à force de contempler sa bien-aimée à travers cette perspective aérienne. Si l'ardeur du jeune John s'était jamais ralentie au jour moins impressionnable de son enfance, à cet âge où la jeunesse est encline à laisser traîner les cordons de ses brodequins sans prendre souci de ses organes digestifs, dont elle a le bonheur d'ignorer l'existence délicate, il s'était bientôt corrigé, et sa constance était devenue dès lors inébranlable. À 19 ans, il avait inscrit sur cette partie du mur qui faisait face à la demeure d'Aimée, à l'occasion de la fête de cette jeune personne, « Sois la bienvenue, d'où nourrissons des fées. » À 23 ans, chaque dimanche, la même main offrait en tremblant des cigares au père de la maréchaussée, ou plutôt au père de la reine de son cœur. Le jeune John était petit de taille, avec des jambes un peu faibles et des cheveux d'un blond très faible aussi. Un de ses yeux, peut-être celui qui avait eu l'habitude de regarder par le trou de la serrure, était faible comme le reste et paraissait plus grand que l'autre, comme un œil étonné qui cherche en vain à se remettre de sa surprise. Le jeune John avait aussi un caractère des plus doux, ce qui ne l'empêchait pas de posséder une grande âme, poétique, expansive, fidèle. Bien qu'en présence de la divinité de son cœur, il fut trop humble pour espérer beaucoup, le jeune John avait examiné la question sous toutes ses faces. Amené par le raisonnement à une conclusion bienheureuse, il avait entrevu, malgré sa modestie, un mariage plein de convenance. Avec un peu de bonheur, l'union était possible. N'était-elle pas l'enfant de la maréchaussée, comme il en était le guichetier en herbe? Voilà pour la convenance. John deviendrait gardien interne. Alors Amy hériterait officiellement de la chambre dont elle avait si longtemps payé le loyer. C'était encore bien agréable. De cette chambre, on pouvait regarder par-dessus le mur d'enceinte en se dressant sur la pointe des pieds et avec un treillage garni de pois de senteur ou de haricots rouges, la fenêtre deviendrait un véritable bosquet. N'était-ce pas ravissant? Puis, comme ils seraient tout l'un pour l'autre, il y avait même une grâce allégorique à se trouver renfermés ensemble dans la geôle. Séparés du monde, sauf de cette partie du monde dont la garde leur serait confiée, ne connaissant que par ouï-dire les peines et les soucis du dehors, et seulement par les récits des pèlerins qui se reposeraient chez eux, en route vers l'hôtel des Insolvables, entre le bosquet aérien et la loge plus terrestre, ils glisseraient doucement sur le fleuve du temps, goûtant un bonheur domestique digne des temps pastoraux. Quelle est l'âme naïve et bucolique qui aurait pu résister à ce tableau touchant? Le jeune John, ému par l'avenir de bonheur qui allait enfin couronner tant d'amour, arracha des larmes de ses propres yeux en terminant le tableau par une pierre tombale dressée dans le cimetière voisin, tout contre le mur de la prison, et portant l'inscription suivante. C.J. John Chivery, qui fut 60 ans guichetier et 50 ans gardien de la prison voisine, décédé le 31 décembre 1806, à l'âge de 83 ans, entouré du respect universel. S'y gît aussi sa bien-aimée et bien-aimante épouse, Amy, fille de William Dorrit, qui n'a pas survécu 48 heures à la perte de son mari, décédé aussi dans la prison de la Maréchaussée. C'est là qu'elle a vu le jour, c'est là qu'elle a vécu, c'est là qu'elle est morte. Les parents de John Chivery n'ignoraient pas la passion de leur fils, d'autant plus qu'elle avait, en quelques rares occasions, poussé le jeune amoureux à témoigner de l'exaspération aux pratiques et à léser les intérêts du débit. Mais M. et Mme Chivery avaient, à leur tour, résolu le problème d'une façon favorable aux vœux de leur unique héritier. Mme Chivery, femme prudente, avait prié son mari de ne pas oublier que la position de leur John, dans la geôle, se trouverait certainement affermie par une alliance avec Mademoiselle Dorrit, qui y avait elle-même certains droits de préséance et qui y était fort estimée. Madame Chivery avait prié son mari de ne pas oublier que si, d'un côté, leur John avait quelques écus et un poste de confiance en expectative, d'un autre côté, Mademoiselle Dorrit avait de la naissance. Les deux faisaient la paire. Madame Chivery, parlant cette fois en mère et non en diplomate, et envisageant la question sous un autre point de vue, avait prié son mari de se rappeler que leur John n'avait jamais été bien fort et que son amour le tourmentait et le tracassait déjà bien assez, sans qu'on le poussât à attenter à ses propres jours, car personne ne pouvait jurer qu'il n'irait pas jusque-là si on le contrariait par trop. Ces arguments avaient agi si puissamment sur l'esprit de M. Chivery, qui était un homme de peu de paroles, qu'il avait quelquefois le dimanche matin donné à son rejeton ce qu'il appelait une tape propice, symbole superstitieux de la chance propice qui devait lui rendre la fortune favorable, avant de le laisser partir pour déclarer sa flamme et revenir triomphant. Mais le jeune John n'avait jamais eu le courage de faire sa déclaration, et c'est principalement à la suite de ces occasions manquées qu'il était revenu tout exaspéré au débit de tabac où il avait malmené les pratiques. Dans cette affaire, comme dans toutes les autres, la petite Dorrit fut la dernière personne que l'on songea à consulter. Son frère et sa sœur connaissaient la passion de John et se rengorgeaient d'avance, comme une patère à laquelle ils accrochaient avec orgueil la vieille fiction fripée de leur naissance distinguée. Fanny affichait ses prétentions aristocratiques en éconduisant le pauvre soupirant, tandis qu'il se promenait aux alentours de la prison dans l'espoir de rencontrer la dame de ses pensées. Tip affichait ses prétentions aristocratiques et se posait en frère irrité, émettant dans la petite cour du jeu de boules des menaces fanfaronnes et de vagues allusions à un gentleman inconnu qu'il pourrait bien un jour ou l'autre empoigner par la peau du cou et secouer comme il faut certains petits roquets qu'il ne nommait pas davantage. Mais ils n'étaient pas les seuls membres de la famille à tirer parti de cet amour discret. Non, non, on ne pouvait pas supposer que le père de la maréchaussée daignât s'en apercevoir. Naturellement, sa pauvre dignité ne pouvait pas abaisser son regard jusque-là. Mais il acceptait sans scrupule les cigares du dimanche. Il était même enchanté de les recevoir. Et parfois il poussait la condescendance jusqu'à se promener de long en large dans la cour pour les fumer avec bienveillance, en compagnie du donataire, qui revenait tout fier et plein d'espoir. Il n'accueillait pas avec moins d'affabilité les attentions de Chivery père, qui cédait toujours son fauteuil et son journal au doyen lorsque celui-ci visitait sa loge durant une de ses factions, et qui lui avait même dit que si quelqu'un de ses soirs M. Dorrit voulait faire tranquillement une promenade dans la cour extérieure et regarder dans la rue, il n'y aurait pas grande difficulté. Si le doyen ne profita pas de cette dernière politesse, ce fut seulement parce qu'il ne tenait plus à jeter un coup d'œil sur le monde extérieur. Car il acceptait d'ailleurs tout ce qu'on lui offrait, et il disait de temps en temps C'est un homme fort poli que ce Chevrey, très attentionné et très respectueux. Le jeune Chevrey également. Il a réellement le sentiment délicat de la position que j'occupe ici. Oui, ils se conduisent vraiment fort bien, ces Chevrey. La façon dont ils se comportent avec moi me flatte et me satisfait. Cependant, le jeune John était trop dévoué pour ne pas embrasser dans sa vénération toute la famille Dorrit. Il ne songea pas un instant à discuter la validité de leurs prétentions. Au contraire, il rendit hommage à leur simagrée. Quant à tirer aucune vengeance du frère de la petite Dorrit, John, eût-il été doué d'un caractère moins pacifique, aurait cru commettre un sacrilège en ouvrant la bouche ou en levant la main contre ce gentleman. Il regrettait de n'avoir pas su conquérir les bonnes grâces de ce noble esprit. Il sentait que sa hauteur n'était pas incompatible avec sa noble origine et ne cherchait qu'à se concilier, par des déférences constantes, l'âme magnanime de Tip. Le père de la maréchaussée, ce gentleman qui avait eu des malheurs, ce gentleman qui avait tant de dignité et des manières si distinguées, et qui l'accueillait toujours avec tant de condescendance, il le vénérait. Pour Fanny, il la trouvait un peu vaniteuse et fière, mais il la regardait aussi comme une jeune fille pétrie de talent qui ne pouvait oublier sa splendeur passée. Le pauvre amoureux honorait et aimait la petite Dorrit tout bonnement parce qu'elle n'avait aucune espèce de prétention, témoignage instinctif rendu au mérite de la jeune fille et à la différence qu'il lui trouvait avec le reste de la famille. Le débit de tabac, situé au coin de l'allée de Horsemonger, se tenait dans un établissement rural qui n'avait pas de premier et qui cumulait l'avantage de recevoir l'air des cours du guichet de Horsemonger et celui d'une promenade solitaire le long du mur de cet agréable édifice. Le magasin avait des allures trop modestes pour pouvoir entretenir un montagnard écossais de grandeur naturelle, mais il soutenait un tout petit Highlander qui se tenait sur une planchette à l'entrée de la boutique où il avait l'air d'un chérubin tombé du ciel avant d'avoir pu achever sa toilette et qui avait toujours pris un kilt pour se couvrir par décence. Un certain dimanche, à la suite d'un certain dîner cuit au four que l'on dépêcha de bonne heure, le jeune John passa sous le portail décoré du chérubin déchu afin de faire au père de la maréchaussée sa visite habituelle. Il n'y allait pas les mains vides. Il n'avait pas oublié son offrande de cigares propitiatoires. Il était convenablement vêtu d'un habit marron surmonté d'un collet de velours noir aussi élevé que le comportait sa taille. Un gilet de soie semé de bouquets d'or, d'une cravate d'un goût exquis et fort en vogue à cette époque, représentant des faisans lilas sur un fond chamois. Un pantalon embelli de raies si large que chaque jambe avait l'air d'un luth à trois cordes, sans compter le chapeau des grands jours, monument très élevé et très ferme. Lorsque la prudente Madame Chevrey s'aperçut qu'outre ses ornements, son John tenait à la main une paire de gants blancs et une canne surmontée d'un bec semblable à un doigt indicateur des poteaux de la route pour qu'il ne se trompât pas de chemin, et lorsqu'elle lui vit tourner le coin de la rue à droite, elle remarqua, en s'adressant à Monsieur Chevrey, qui n'était pas de garde ce jour-là, qu'elle croyait savoir de quoi il retournait. Les détenus hébergeaient justement ce jour-là un assez grand nombre de visiteurs, et leur père restait chez lui pour recevoir ceux qui voudraient se faire présenter. Après avoir fait le tour de la cour, l'amoureux de la petite Dorrit monta, le cœur agité, et frappa avec son poing fermé à la porte du père de la maréchaussée. « Entrez, entrez !» dit une voix affable. C'était la voix du père, du père de la petite Dorrit, du père des prisonniers pour dette. Il était assis, son journal à la main, coiffé de sa calotte noire. 4 francs de menu monnaie d'argent avaient été oubliés par hasard sur la table et 2 chaises, disposées d'avance, tendaient les bras aux visiteurs. Tout était arrangé pour le grand lever du doyen. « Ah, petit John, comment allez-vous? Comment allez-vous? Assez bien, merci, monsieur. J'espère que vous pouvez en dire autant. Oui, John Chevrey, oui, je n'ai pas trop à me plaindre de ce côté-là. J'ai pris la liberté, monsieur, de... Hein ? Le doyen levait toujours les sourcils à cet endroit du discours, prenait un air de distraction aimable et un sourire rêveur. Quelques cigares, monsieur. Oh, moment de surprise extrême. Merci, jeune John, merci. Mais vraiment, je crains d'être trop... Non, dans ce cas, n'en parlons plus. Posez-les sur la cheminée, s'il vous plaît, John. Et asseyez-vous, asseyez-vous. Vous n'êtes pas un étranger ici, John. Merci, monsieur, vous êtes bien bon. Mademoiselle, ici John fit tourner son chapeau monumental sur sa main gauche, comme une cage d'écureuil qui roule lentement sur son axe. Mademoiselle Amy se porte bien ?
Oui, John, oui, elle se porte très bien. Elle est sortie.
Vraiment, monsieur ?
Oui, John, Mademoiselle Amy est allée prendre l'air.
Mes jeunes gens sortent tous très fréquemment. Mais à leur âge, c'est bien naturel, John.
Rien de plus naturel, monsieur Dorrit.
Oui, elle est allée prendre l'air, John, prendre l'air. Il tambourinait doucement sur la table d'un air paterne et dirigeait les yeux vers la croisée.
Elle prend l'air sur le pont suspendu. Elle affectionne particulièrement le pont suspendu depuis quelque temps et semble préférer cette promenade à toute autre.
Il changea la conversation.
Votre père n'est pas de garde en ce moment, je crois, John.
Non, monsieur, son tour ne vient que plus tard dans l'après-midi.
Le chapeau recommença à tourner.
Je crois qu'il faut que je vous dise au revoir, monsieur.
Déjà ?
Au revoir, jeune John.
Allons, allons.
Ce n'est pas la peine d'ôter votre gant, John. Gardez-le pour me donner une poignée de main. Vous n'êtes point un étranger ici, vous savez.
Ravi de la cordialité de cette réception, John descendit l'escalier. Il rencontra en route plusieurs détenus, accompagnés de visiteurs, qui désiraient se faire présenter. M. Dorrit, se penchant par hasard par-dessus la rampe, choisit ce moment pour lui dire avec une intonation de voix très distincte « Je vous suis fort obligé de votre petit témoignage, John. »
L'amoureux de la petite Dorrit eut bientôt déposé ses deux sous au tourniquet du pont suspendu et s'avança à la recherche d'une personne bien connue et bien aimée. D'abord, il craignit qu'elle ne fût pas là, mais en s'approchant de l'autre rive, il la vit debout et immobile, regardant la rivière. Elle paraissait absorbée dans une rêverie profonde, et il se demanda à quoi elle pouvait penser. Elle avait devant elle une forêt de cheminées et de toits, moins encombrée de fumée que durant les jours de la semaine. Peut-être pensait-elle aux cheminées. La petite Dorrit resta si longtemps à rêver et fut si complètement préoccupée que, bien que son amoureux fût resté auprès d'elle pendant un temps qui lui parut assez long, et se fût retiré deux ou trois fois pour revenir ensuite au même endroit, elle ne bougea pas. De sorte qu'il se décida enfin à s'avancer et à lui adresser la parole. L'endroit était tranquille et retiré, et il se dit que c'était le moment ou jamais de lui parler. Il s'approcha donc, et elle ne sembla pas entendre le bruit de ses pas jusqu'au moment où il se trouva près d'elle. Lorsqu'il dit « Mademoiselle Dorrit », elle tressaillit et recula devant lui avec une expression de frayeur et même de répulsion qui causa à John une épouvante indicible. Plus d'une fois déjà, elle l'avait évité. Depuis longtemps, elle semblait même toujours chercher à l'éviter. Elle s'était détournée si souvent et éloigné d'un pas si léger, en le voyant venir, que l'infortuné John ne pouvait plus croire qu'elle le fît sans intention. Mais il avait espéré que c'était un effet de sa timidité ou de sa modestie, ou qu'elle avait deviné peut-être ce qu'il aurait voulu lui dire, mais il était loin de croire que ce fût par aversion. Et voilà que ce rapide regard venait lui dire « Comment, vous ici, vous la dernière personne que j'aurais voulu rencontrer ?» Ce ne fut qu'un éclair, car elle réprima ce mouvement de répulsion pour lui dire de sa petite voix douce « Oh, monsieur John, c'est donc vous ?» Mais elle sentit ce que son regard venait déjà d'exprimer. John ne s'y était pas trompé non plus, et tous deux se regardèrent d'un air également confus. « Oui, mademoiselle Amy, je crains de vous avoir dérangé en vous adressant la parole. »«
Oui, un peu. J'étais venu ici pour être seul. » Et je croyais bien l'être.
Mademoiselle Amy, j'ai pris la liberté de venir par ici parce que M. Dorrit m'a appris par hasard, lorsque je lui ai fait une visite, que vous... » Elle se troubla encore plus que tout à l'heure en murmurant tout à coup « Oh, père, père !» d'un ton déchirant
et en détourna la tête. « Mademoiselle Amy, j'espère que je ne vous ai causé aucune inquiétude en nommant Monsieur Dorrit. Je vous assure que je l'ai trouvé en très bonne santé et de très bonne humeur, et qu'il m'a témoigné autant de bonté que d'habitude. Il a même été assez obligeant pour me dire que je n'étais pas un étranger chez lui. Enfin, il m'a reçu d'une manière tout à fait flatteuse. » À la grande consternation de son amoureux, la petite Dorrit détourna son visage et le cacha dans ses deux mains, puis se balançant sans changer de place, comme s'il souffrait, murmura encore « Oh, père, comment pouvez-vous ? Oh, mon cher père, comment pouvez-vous agir ainsi ?» Le pauvre garçon continua à la regarder, le cœur débordant de sympathie, mais sans comprendre ce que cela voulait dire, jusqu'au moment où la petite Dorrit, après avoir pris son mouchoir et l'avoir porté à son visage toujours détourné, s'éloigna rapidement. D'abord John demeura aussi immobile qu'une statue, puis il courut après elle. « Mademoiselle Amy, je vous en prie, ayez la bonté de vous arrêter un instant. Mademoiselle Amy, s'il faut que quelqu'un s'en aille, laissez-moi partir. Je perdrai la tête s'il me fallait croire que c'est moi qui vous fais fuir ainsi. » Sa voix tremblante et sa sincérité évidente arrêtèrent la petite Dorrit. « Oh, que faire ? » s'écria-t-elle. « Que dois-je faire ?» Comme le jeune John n'avait jamais vu la petite Dorrit en proie à la moindre agitation, comme au contraire il l'avait vue conservant dès son enfance un sang-froid inaltérable, il éprouva devant cette détresse un contre-coup qui le fit trembler depuis le sommet de son chapeau monumental jusqu'à la semelle de sa chaussure. Il jugea donc nécessaire de s'expliquer. Il pouvait avoir été mal compris. On pouvait croire qu'il avait voulu dire ou faire quelque chose dont il était à 100 lieues. Il pria donc la petite Dorrit d'écouter son explication. C'était la plus grande faveur qu'elle pût lui accorder. « Mademoiselle Amy, je sais que votre famille est bien supérieure à la mienne. J'essayerai en vain de le dissimuler. Je n'ai jamais entendu parler d'un Chivery qui ait été gentleman, et je ne commettrai pas la bassesse de vouloir vous en imposer sur une question aussi importante. Mademoiselle Amy, je sais fort bien que votre frère au noble cœur et votre sœur Altière me dédaignent du haut de leur grandeur. Tout ce qui me reste à faire, c'est de gagner un jour leur amitié à force d'égards et de respect, de contempler du fond de mon humble position l'éminence où les a placés leur naissance, car soit qu'on nous considère comme marchands de tabac ou comme guichetiers, je sais fort bien que notre situation est humble, et de leur souhaiter bonheur et santé. » Le pauvre garçon était si candide, et il existait un tel contraste entre la fermeté de son chapeau et la tendresse de son cœur, et peut-être même de sa tête, que cela avait quelque chose de touchant. La petite Dorrit le supplia de ne ravaler ni sa personne ni sa position sociale, et surtout de ne pas s'imaginer qu'elle se regarda comme au-dessus de lui. Ces paroles consolèrent un peu le jeune John. « Mademoiselle Amy, bégaya-t-il, depuis longtemps, depuis des siècles, à ce qu'il me semble, je nourris dans mon cœur le désir de vous dire quelque chose. Puis-je parler ?» La petite Dorrit s'éloigna encore une fois de lui avec un tressaillement involontaire. Réprimant ce mouvement, elle traversa d'un pas rapide la moitié du pont sans répondre. « Puis-je parler ? Mademoiselle Amy, je vous adresse humblement cette simple question. Puis-je parler ? Je suis si malheureux de la peine que je vous ai causée, sans le vouloir, j'en prends le ciel à témoin, qu'il n'y a pas le moindre danger que je parle sans votre consentement. Je saurai garder pour moi le secret de ma peine. Je saurai dévorer ma douleur, sans chercher à faire partager ma douleur et ma peine à celle pour laquelle je me lancerai plutôt par-dessus ce parapet si cela pouvait lui procurer un moment de plaisir. D'ailleurs, ce n'est pas bien malin, car je le ferai pour un penny. » L'accablement de John, avec une mise si splendide, aurait pu le rendre ridicule si la délicatesse ne l'avait pas rendu respectable. La petite Dorrit comprit ce qu'elle devait faire. « S'il vous plaît, John Chivery, » dit-elle en tremblant, mais d'un ton calme, « puisque vous avez l'obligeance de me demander si vous devez en dire davantage, s'il vous plaît, n'en faites rien. » « Jamais, mademoiselle Amy ? Non, s'il vous plaît, jamais. » « Ah, bonté du ciel !» mais peut-être, au lieu de cela, me laisserez-vous vous dire quelque chose moi-même. Je voudrais bien vous le dire tout franchement, avec autant de simplicité que possible. Quand vous penserez à nous, John, je veux dire à mon frère, à ma sœur et à moi, ne pensez pas à nous comme à des personnes qui diffèrent des autres détenus. Car, quelque position que nous ayons occupée autrefois, et je ne la connais guère, il y a longtemps que nous sommes ce que vous voyez, et nous ne nous relèverons jamais. Cela vaudra mieux pour vous, et beaucoup mieux pour d'autres, que de faire ce que vous faites maintenant. » Le jeune John protesta d'un air lugubre qu'il essaierait de se rappeler ce conseil, et qu'il ferait volontiers ce qu'elle désirait. « Quant à moi, dit la petite Dorit, pensez à moi aussi peu que vous pourrez. Moins vous y penserez, mieux cela vaudra. Lorsque vous penserez à moi, John, ne songez qu'à l'enfant que vous avez vu grandir dans la prison, toujours occupé des mêmes devoirs, qui est resté faible, craintive, contente et sans protecteur. Je désire surtout que vous vous rappeliez que lorsque je mets le pied hors de la prison, je suis seul et sans protecteur. » Il répondit qu'il était prêt à faire tout ce qu'elle désirait. Mais pourquoi Mademoiselle Aimée tenait-elle tant à ce qu'il se rappelât cela? Parce que, répliqua la petite Dorit, je sais que je puis compter que vous n'oublierez pas notre rencontre d'aujourd'hui et que vous ne me parlerez plus de ce que vous vouliez me dire. Vous êtes si généreux que je puis compter sur vous et j'y compte et j'y compterai toujours. Et je vais vous prouver que j'ai toute confiance en vous. J'aime l'endroit où je vous parle plus qu'aucun autre endroit que je connaisse. Le peu de couleur qui animait le teint de la petite Dorit avait disparu, mais son amoureux trouva qu'elle devenait moins pâle en faisant cet aveu. Et il est possible que je vienne souvent me promener ici. Je sais que je n'ai qu'à vous le dire pour être tout à fait sûr que vous ne viendrez jamais m'y chercher. Et j'en suis bien sûr. Elle pouvait y compter, dit le jeune John, qui déclara en outre qu'il se regardait comme le plus infortuné des mortels, mais que le désir de la petite Dorit serait pour lui une loi. « Et adieu, John, dit la petite Dorit, j'espère que vous trouverez une bonne femme un jour ou l'autre et que vous serez heureux avec elle. Certainement, vous méritez d'être heureux et vous le serez, John. » Comme elle lui tendait la main en parlant ainsi, le cœur qui battait sous ce gilet à bouquet d'or, ce n'était que de la camelote à vrai dire, se gonfla jusqu'à l'ampleur d'un cœur de gentleman, et le pauvre petit John, n'ayant pas de place pour le contenter, ne put que fondre en larmes. « Oh, ne pleurez pas !» s'écria la petite Dorit, avec un accent plein de pitié. « Non, non, je vous en prie. Adieu, John. Dieu vous bénisse. »« Adieu, mademoiselle Amy, adieu. » Et il la quitta là-dessus, après avoir remarqué pourtant qu'elle s'était assise sur un banc et qu'elle appuyait non seulement sa petite main, mais aussi son visage, contre le parapet rugueux, comme si elle se fût sentie la tête lourde et l'esprit attristé. C'était une démonstration touchante de la vanité des projets humains que de voir l'amoureux de la petite Dorit, le chapeau monumental ramené sur ses yeux, le collet de velours relevé comme par un temps de pluie, l'habit marron boutonné jusqu'en haut pour cacher le gilet au bouquet d'or et l'index inexorable de la petite canne tourné vers la maison paternelle, se glisser le long des plus sales rues de traverse et composer en route cette nouvelle épitaphe, destinée à figurer sur une pierre tombale dans le cimetière de l'église Saint-Georges. S'y gisent les restes mortels de John Chivery, qui n'a jamais fait grand-chose de bon, décédé vers la fin de l'année 1826, à la suite d'une passion malheureuse. À son dernier soupir, il a prié ses parents de faire graver au-dessus de ses cendres le mot « aimé » et ses parents inconsolables ont exaucé sa prière. Chapitre 19. Le père de la maréchaussée dans ses diverses relations sociales. Les frères William et Frédéric Dorit, se promenant de long en large dans la cour de la prison, du côté de la pompe, bien entendu, le côté du beau monde, le quartier aristocratique de l'endroit, car le père des détenus, par respect pour sa propre dignité, avait soin de ne pas se montrer trop souvent du côté fréquenté par les moins fortunés de ses enfants, sauf le dimanche matin, le jour de Noël ou autres époques de cérémonie, où il ne manquait jamais de venir poser la main sur la tête des prisonniers en bas âge et de bénir ces jeunes insolvables avec une bienveillance vraiment édifiante. Les deux frères, se promenant de long en large dans la cour, présentaient un spectacle mémorable. Frédéric le Libre était si humble, si cassé, si flétri, si fané. William le Captif était si distingué, si affable, et si peu fier de la position superbe qu'il savait pourtant bien occuper, que ce seul contraste, à défaut d'autre, aurait suffi pour exciter la surprise chez le spectateur. Il se promenait de long en large dans la cour, le soir du jour où la petite Dorite avait causé avec son amoureux sur le pont suspendu. Le doyen avait fini pour la journée avec les soucis de son rang. Son grand lever avait attiré assez de monde. Plusieurs présentations avaient eu lieu. Les 4 francs qui traînaient par hasard sur la table s'étaient, par hasard aussi, multipliés par 4, tandis qu'il se promenait dans la cour, adaptant, avec une affabilité extrême, son pas à la démarche lente et traînarde de son frère, modeste dans sa supériorité et plein d'égards pour ce pauvre Frédéric, l'acceptant tel qu'il était et respirant la tolérance des défauts fraternels dans chaque bouffée de tabac qu'il laissait échapper de ses lèvres et qui avait l'ambition de s'envoler par-dessus le mur garni de pointes de fer. William Dorrit était bon à voir. Son frère Frédéric, à l'œil terne, à la main tremblante, aux épaules voûtées et à l'esprit trouble, traînait humblement la gigue à côté de son aîné, dont il acceptait le patronage, comme il acceptait tout incident dans le labyrinthe du monde où il s'était perdu. Il tenait à la main le cornet de tabac habituel, où il puisait fréquemment une prise économe. L'ayant humé en hésitant, il jetait de nouveau sur son frère un regard admirateur, remettait ses mains derrière son dos et marchait ainsi auprès de lui jusqu'à ce qu'il éprouvât le besoin de prendre une nouvelle prise ou de s'arrêter pour regarder autour de lui, peut-être en se rappelant tout à coup qu'il avait oublié sa clarinette. Les visiteurs disparaissaient à mesure que les ombres de la nuit s'abaissaient, mais il y avait encore assez de monde dans la cour, la plupart des prisonniers étant descendus pour reconduire leurs amis jusqu'à la loge. Tandis que les deux frères se promenaient dans la cour, William le Captif regardait autour de lui pour recevoir les salutations de ses admirateurs, auxquels il ôtait gracieusement son chapeau et empêchait Frédéric le Libre de se heurter contre les passants ou d'être poussé contre le mur. Les détenus en masse ne formaient pas une corporation bien sentimentale. Mais néanmoins, tous les prisonniers, chacun à sa façon, montraient bien sur leur visage qu'ils trouvaient les deux frères bons à voir. « Tu me parais un peu abattu ce soir, Frédéric, » dit le père des détenus. « Aurais-tu quelque chose ?»« Quelque chose ?» Il ouvrit un moment les yeux tout grands, puis baissa de nouveau la tête et les paupières. « Non, William, non, je n'ai rien. »« Si l'on pouvait te persuader de soigner un peu ta mise, Frédéric. » « Oui, oui, » interrompit le vieillard, « mais je ne puis pas, je ne puis pas. Ne me parle plus de cela, c'est fini. » Le doyen jeta en passant un coup d'œil à un détenu avec lequel il était en relation amicale, comme qui dirait « C'est un vieillard bien faible que celui que vous voyez auprès de moi. Mais ce vieillard est mon frère, monsieur, et la voix de la nature est si puissante. » Et il pilota son frère hors de portée du bras de la pompe en le prenant par sa manche râpée. Rien n'eût manqué pour faire de William Dorrit un modèle de guide fraternel, de philosophe et d'ami, s'il avait seulement garé son frère d'une ruine entière au lieu de la causer lui-même. « Je crois, William, répondit l'objet de cette affectueuse sollicitude, que je suis fatigué et je vais aller me coucher. » « Mon cher Frédéric, répliqua l'autre, que je ne te retienne pas. Ne sacrifie pas tes goûts aux miens. L'éveil, l'air un peu lourd de ma chambre, et les années aussi, je suppose, dit Frédéric, tout ça contribue à m'affaiblir. Mon cher Frédéric, répondit le doyen, penses-tu que tu prennes assez de soin de ta santé? Penses-tu que tes habitudes soient aussi régulières et aussi méthodiques que le sont les miennes, par exemple? Pour ne pas ramener sur le tapis cette petite excentricité à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, je doute que tu prennes assez d'air et assez d'exercice, Frédéric. Voici une promenade qui est toujours à ton service. Pourquoi ne pas en profiter plus souvent que tu ne le fais ?
Ah ! Soupira l'autre. Oui, oui, oui.
Mais il est parfaitement inutile de dire oui, oui, mon cher Frédéric, persista le doyen avec sa douce sagesse, si tu ne veux pas en profiter. Tu n'as qu'à me voir, Frédéric. Tu peux prendre exemple sur moi. La nécessité et le temps m'ont appris ce que je dois faire. À certaines heures précises de la journée, tu me trouveras à la promenade, ou dans ma chambre, ou dans la loge, lisant mon journal, recevant mon monde, mangeant et buvant. Il y a déjà bien des années que j'ai dressé Amy à cette exactitude. Je lui ai appris, par exemple, la nécessité que mes repas soient servis à heure fixe. À mesure qu'elle a grandi, elle a compris l'importance de ces arrangements, et tu sais quelle bonne fille cela fait. Le frère se contenta de soupirer de nouveau, tandis qu'il rêvait en marchant de son pas traînard. « Ah, oui, oui, oui !»« Mon cher ami, » dit le père de la maréchaussée, posant la main sur l'épaule de Frédéric, et le raillant avec douceur, il était si faible, le pauvre cher homme. « Tu m'as déjà dit cela, et je ne sais pas si tes paroles, Frédéric, ont un sens caché qui m'échappe, mais elles n'ont pas l'air de signifier grand-chose. Je voudrais pouvoir te réveiller un peu, mon bon Frédéric. Tu as besoin d'être réveillé. »
« Oui, William, oui, sans doute, » répondit l'autre,
levant ses yeux ternes vers le visage de son frère, « mais je ne suis pas comme toi. » Le père de la maréchaussée remarqua, en haussant les épaules avec modestie, « Oh, tu pourrais me ressembler, mon cher Frédéric, tu pourrais me ressembler si tu voulais. » Et il s'abstint, dans sa magnanimité, de presser davantage son frère déchu. On se disait bien des adieux dans les coins, ainsi que cela se faisait habituellement le dimanche. Ça et là, dans l'obscurité, quelques pauvres femmes, épouses ou mères, pleuraient avec un détenu novice. Le temps avait été où le doyen lui-même avait pleuré, dans les ombres de cette cour, auprès de sa pauvre femme qui pleurait aussi. Mais il s'était bien passé des années depuis cette époque, et maintenant le vieillard ressemblait à un passager parti pour un voyage au long cours qui, lorsqu'il ne ressent plus le mal de mer, s'impatiente de cette faiblesse chez les passagers moins aguerris que l'on a embarqués au dernier port. Il s'en fallait de peu qu'il ne leur fît des remontrances et qu'il ne leur mît le marché en main en leur disant que les gens qui ne pouvaient vivre sans pleurer n'avaient que faire dans sa prison. Ses gestes, sinon ses paroles, témoignaient toujours le mécontentement que lui causaient de pareilles interruptions apportées à l'harmonie générale. Et la chose était si connue que les coupables s'empressaient ordinairement de disparaître sitôt qu'ils voyaient approcher le doyen. Le dimanche soir en question, William Dorrit conduisit son frère jusqu'à la grille avec un air plein de charité et de clémence. Il était de bonne humeur et gracieusement disposé à pardonner les larmes. Plusieurs détenus se pavanaient sous la lueur éclatante du gaz de la loge. Les uns disaient adieu aux visiteurs et d'autres, qui n'avaient pas de visiteurs, regardaient la clé tourner fréquemment dans la serrure et causaient entre eux avec M. Chivery. L'entrée paternelle causa naturellement une certaine sensation, et M. Chivery, portant sa clé à son chapeau, espéra, mais d'une façon très laconique, que M. Dorrit allait assez bien. « Merci, Chivery, très bien, et vous-même » M. Chivery répliqua « Oh, moi, à merveille !» En général, le guichetier, lorsqu'il était un peu grognon, ne répondait pas autrement quand on lui demandait des nouvelles de sa santé. « J'ai reçu la visite du jeune John aujourd'hui, Chivery, et il avait l'air très pimpant, je vous assure. » C'est ce que M. Chivery avait ouï dire. M. Chivery, néanmoins, devait avouer qu'il désirait que son jeune homme ne dépensât pas tant d'argent pour sa toilette. À quoi cela menait-il? Ça ne lui rapportait que des déboires, et les déboires n'étaient déjà pas si rares. C'était une marchandise qu'on pouvait se procurer partout gratis. « Quel déboire, Chivery ? » demanda le doyen avec bienveillance. « Rien, rien, » répondit Chivery. « N'importe. Monsieur Frédéric s'en va ?»« Oui, Chivery, mon frère va se coucher. Il est fatigué et ne se sent pas très bien. Prends garde, Frédéric. Prends garde. Bonsoir, mon cher Frédéric. » donnant une main à son frère et portant l'autre à son chapeau graisseux pour saluer la société rassemblée dans la loge, Frédéric sortit d'un pas traînant par la porte que Chivery venait de lui ouvrir. Le doyen témoigna l'aimable sollicitude d'un être supérieur pour empêcher Frédéric de se faire mal. « Soyez assez bon pour laisser la porte ouverte un instant, Chivery, que je le vois seulement descendre le passage et les marches. Prends garde, Frédéric, il est si infirme. Fais attention aux marches, il est si distrait. Regarde bien devant toi avant de traverser la rue, Frédéric. En vérité, je n'aime pas le voir errer ainsi en liberté, il risque tant de se faire écraser. » Après avoir ainsi parlé avec une expression de visage qui annonçait tous ses doutes inquiets et toute son anxiété protectrice, il tourna les yeux vers la société réunie dans la loge, comme pour leur dire « N'est-ce pas que mon pauvre frère est bien à plaindre de ne pas être enfermé sous clé comme nous ?» Opinion qui parut assez du goût des assistants. Mais William Dorrit ne l'accepta pas sans restriction. Au contraire, « Non, dit-il, messieurs, non. Vous interprétez mal ma pensée. Mon frère Frédéric est fort cassé, sans doute, et peut-être serais-je plus tranquille si je le voyais logé derrière ces murs, à l'abri de tout danger. Mais n'oublions pas que pour y supporter l'existence pendant un long séjour, il faut une certaine combinaison de qualités. Je ne dirais pas de grande qualité, mais de qualité morale. Or, mon frère Frédéric possède-t-il cette réunion de qualités requises ? Messieurs, c'est un excellent homme, doux, tendre, estimable et simple comme un enfant. Mais qu'il soit incapable de se tirer d'affaire partout ailleurs, pensez-vous qu'il se tirerait mieux d'affaire chez nous ? Non, je suis persuadé que non. Et le ciel préserve Frédéric de jamais venir ici autrement que comme un visiteur bénévole. Messieurs, quiconque arrive ici pour y rester longtemps doit avoir une vigueur de caractère qui lui permette de beaucoup endurer. Mon bien-aimé Frédéric est-il l'homme qu'il faut pour cela ? Non. Vous l'avez vu, il est déjà cassé sans avoir séjourné ici. Le malheur l'a écrasé. Il ne sait pas résister. Il n'a pas non plus assez d'élasticité pour habiter longtemps un endroit comme celui-ci, sans perdre la conscience du respect qu'il se doit à lui-même, sans oublier qu'il est gentleman. Frédéric n'a pas, si je puis me servir de cette expression, assez d'élévation pour voir dans une foule de petits égards, plein de délicatesse, dans les divers témoignages qu'il pourrait recevoir, l'esprit généreux qui anime la communauté des détenus, et pour reconnaître qu'il n'y a là aucun déshonneur ni aucune atteinte à ses droits de gentleman, messieurs. Dieu vous garde. Ce fut ainsi qu'il mit à profit l'occasion de prononcer cette homélie pour l'édification de la société réunie dans la loge, avant de rentrer dans la cour blafarde et de passer avec sa pauvre dignité râpée devant le détenu en robe de chambre qui n'avait pas d'habit et devant le détenu en pantoufles de baigneur qui n'avait pas de souliers et devant le gros fruitier en culotte de velours à côtes qui n'avait pas de soucis et devant le maigre commis vêtu d'un habit noir sans boutons pour remonter son pauvre chétif escalier jusqu'à sa pauvre chétive chambre. Là, la table était mise pour son souper, et sa vieille robe de chambre grise l'attendait sur le dos de son fauteuil, non loin du feu. Sa fille mit son petit livre de prière dans sa poche, elle venait de prier pour les prisonniers et les captifs, et se leva pour lui souhaiter la bienvenue. « L'oncle Frédéric était donc parti ? » demanda-t-elle, en l'aidant à changer d'habit et en lui donnant sa calotte de velours noir. Oui, l'oncle Frédéric était parti. Père avait-il fait une promenade agréable ? Mais non, pas trop, Amy, pas trop. Non, est-ce que père ne se porterait pas tout à fait bien ? Tandis qu'elle se tenait derrière lui, penchant au-dessus du fauteuil un visage aimant, son père regardait le feu, les yeux baissés. Il semblait éprouver quelque malaise où il entrait une légère pointe de honte. Et lorsque, peu de temps après, il reprit la parole, ce fut d'une manière décousue et embarrassée. Il faut qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas quoi, qui aura agacé Chivery. Ce soir, il s'est montré beaucoup moins obligeant et moins empressé que de coutume. C'est bien peu de choses, mais cela suffit pour m'attrister, ma chère. Je ne saurais oublier tournant et retournant ses mains et les regardant de près, que lorsqu'on mène une existence comme la mienne, on se trouve malheureusement à la merci de ces gens-là, qui, à chaque heure de la journée, peuvent vous causer quelque ennui. » Le bras de la petite Dorit était sur l'épaule de son père, mais elle ne regarda pas le vieillard pendant qu'il parlait. Elle baissa la tête et tourna les yeux d'un autre côté. « Je ne puis pas m'imaginer, Amy, ce qui a pu offenser Chivery. En général, il est si prévenant et si respectueux. Et ce soir, il a été tout à fait laconique avec moi. Et devant des étrangers encore. Mais, bonté divine, si Chivery et ses collègues cessaient de me soutenir et de reconnaître ce qui m'est dû, je courrais le risque de mourir de faim ici. » Tandis qu'il parlait, il ouvrait et fermait les mains comme des soupapes, sentant si bien cette pointe de honte qu'il n'osait trop s'avouer à lui-même le sens de ses propres paroles. « Je ne puis m'imaginer d'où cela vient. Je ne puis vraiment me figurer ce qui cause ce brusque changement. Il y avait ici dans le temps un guichetier nommé Jackson. Je ne crois pas que tu puisses te rappeler, ma chère, tu étais bien jeune alors. Et... il avait un frère, et ce jeune frère faisait la cour à... ou plutôt, il n'allait pas jusqu'à lui faire la cour, mais il admirait respectueusement la sœur de l'un de nous, la sœur d'un détenu assez distingué, je dirais même très distingué. Ce détenu se nommait le capitaine Martin, et il me consulta pour savoir s'il était nécessaire que sa fille, sœur, veux-je dire, risqua d'offenser le père du guichetier en se montrant trop explicite. Le capitaine Martin était un gentleman et un homme d'honneur, et je le priais de me dire d'abord son propre avis. Le capitaine, très respecté dans l'armée, me répondit sans hésiter qu'il lui semblait que sa sœur n'était nullement tenue de comprendre trop clairement le jeune amoureux et qu'elle pouvait le faire aller. Je ne suis pas bien sûr que le capitaine Martin ait employé cette expression. Je crois même qu'il a dit le « tolérer » à cause de son père, je veux dire de son frère. Je ne sais pas trop ce qui m'a amené à te raconter cette histoire. C'est sans doute parce que je cherchais vainement à me rendre compte des façons d'agir de Chivery. Mais quant au rapport entre les deux situations, je ne vois pas. La voix du vieillard s'éteignit. La petite Dorit, comme si elle ne pouvait plus longtemps l'entendre parler ainsi, avait petit à petit levé la main jusqu'aux lèvres de son père pour lui fermer la bouche. Pendant quelques instants, il régna dans la chambre une immobilité et un silence complet. Le père resta ramassé dans sa chaise, et la fille resta le bras autour du cou et la tête appuyée sur l'épaule du doyen. Le souper du doyen était en train de cuire dans sa petite casserole posée sur le feu, et lorsque la petite Dorit changea de place, ce fut pour servir le repas qu'elle avait apprêté. Monsieur Dorit s'assit à sa place habituelle. La petite Dorit prit une chaise à côté de lui, et il commença son souper. Jusqu'alors, le père et la fille avaient évité de se regarder. Le père commença petit à petit, posant avec bruit sur la table son couteau ou sa fourchette, ramassant les objets avec brusquerie, mordant son pain comme s'il lui en voulait, et témoignant encore par d'autres signes qu'il n'était pas dans son assiette ordinaire. Enfin, il repoussa son assiette et parla tout haut, avec la plus grande étrange incohérence. « Qu'importe que je mange ou que je meure de faim, qu'importe qu'une existence aussi flétrie que la mienne se termine maintenant ou se prolonge jusqu'à la semaine ou jusqu'à l'année prochaine. Qui est-ce qui tient à moi ? Un pauvre prisonnier qu'on nourrit d'aumônes et de restes, un pauvre diable qui n'a plus ni honneur ni argent. Père, père !» Comme il se levait, elle se mit à genoux devant lui et leva vers lui les mains. « Aimé, » continua le vieillard d'une voix étouffée, tremblant violemment et la regardant d'un air aussi égaré que s'il fût devenu fou, « je te dis que si tu pouvais me voir comme ta mère m'a vu, tu ne reconnaîtrais pas le malheureux que tu n'as aperçu qu'à travers les barreaux de cette cage. J'étais jeune alors. J'avais de l'esprit. J'avais bonne mine. J'étais indépendant. Oui, parbleu, je l'étais, mon enfant. Et on me recherchait, et on me portait en vie. Certainement qu'on me portait en vie.
Cher père.
Elle essaya de ramener le bras tremblant qu'il brandissait, mais le vieillard résista et repoussa sa main.
Si j'avais seulement fait faire mon portrait dans ce temps-là,
il faudrait qu'il fût bien mal fait pour que tu n'en fusses pas fier, tu verrais que tu en serais fier.
Mais je n'y ai pas pensé. Que ceci serve d'exemple aux autres.
Que chacun, s'écria-t-il, regardant autour de lui d'un air hagard, ait soin de conserver au moins ce léger souvenir de l'époque où il était heureux et respecté. Que chacun laisse à ses enfants cette preuve du rang qu'il a occupé. À moins que mes traits, lorsque je serai mort, ne reprennent leurs agréments d'autrefois, on dit que ces choses-là sont arrivées, je n'en sais rien, mes enfants ne m'auront jamais vu.
Père, père! Oh, méprise-moi, méprise-moi! Détourne les yeux, ne m'écoute pas.
Oh, ferme-moi la bouche, rougis de moi, pleure de m'avoir pour père.
Et toi aussi, aimé, fais-le, fais-le. Ne le fais-je pas moi-même? Je suis endurci maintenant. Je suis tombé trop bas pour me chagriner longtemps, même de cela.
Cher père, père aimé, que je chéris de tout mon cœur. Elle l'entourait de ses bras et réussit à le faire rasseoir dans son fauteuil, puis elle saisit son bras, toujours levé, et chercha à le ramener autour de son cou.
Laisse-le là, père. Regarde-moi, père. Embrasse-moi, père. Pense à moi, père, un seul instant.
Le vieillard continua cependant à parler de la même façon incohérente, bien que sa voix prît peu à peu le ton d'une pleurnicherie piteuse.
Et pourtant, on me respecte ici. J'ai su me relever. Je ne me suis pas tout à fait laissé fouler aux pieds.
Tu n'as qu'à descendre et demander quel est le premier personnage de l'endroit, on te dira que c'est ton père. Tu n'as qu'à descendre et demander quel est celui dont on ne se moque jamais et qu'on traite toujours avec une certaine délicatesse, on te nommera ton père. Tu n'as qu'à descendre et demander quel enterrement, ici, je sais bien que c'est ici que je mourrai, je ne peux pas mourir ailleurs, causera plus de bruit et peut-être plus de regrets qu'aucun autre qui ait jamais passé le pas de la grille, on te répondra que c'est celui de ton père.
Eh bien donc, aimé, aimé, ton père est-il si généralement méprisé? N'y a-t-il rien pour le réhabiliter?
Ne conserveras-tu d'autres souvenirs de lui que ceux de sa ruine et de sa décadence? Ne pourras-tu lui garder aucune affection quand il ne sera plus, le pauvre paria, quand il ne sera plus?
Il versa lui-même des larmes d'ivrogne, et permettant enfin à sa fille de l'embrasser et de le consoler, il laissa sa tête grise reposer contre la joue d'Aimé et pleura sa malheureuse destinée.
Bientôt, changeant le sujet de ses lamentations et la serrant dans ses bras, tandis qu'elle l'embrassait, il s'écria
« Oh, Aimé, pauvre enfant sans mère et délaissé! Oh, combien de jours je t'ai vu passer à me soigner et à travailler pour moi !»
Puis il reparla de lui-même et dit à sa fille, d'un cœur attendri, combien elle l'aurait aimé davantage si elle l'avait connu dans les jours de sa splendeur éclipsée, et comment il lui aurait donné pour époux un gentleman qui aurait été fier de l'avoir pour beau-père, et comment, cette pensée le fit pleurer de nouveau, elle aurait commencé par se promener à son côté paternel sur un cheval à elle, tandis que l'humble foule, il entendait par là les gens qui lui avaient donné les 16 francs qu'il avait dans sa poche, aurait trotté, chapeau bas, devant elle, dans la poussière du chemin. Ce fut ainsi que, tantôt par ses vanteries, tantôt par son désespoir, qui sentait l'un ou l'autre le captif souillé par la lèpre de la geôle, et dont l'atmosphère impure de la prison avait corrompu jusqu'à l'âme, il révéla à sa fille affectueuse l'état dégénéré de son cœur. Personne qu'elle ne le vit jamais à plein dans les détails de son humiliation. Les détenus qui riaient dans leur chambre, en songeant au discours qu'il leur avait adressé dans la loge, ne songeaient guère au sombre tableau qui attristait ce soir-là leur triste musée de la maréchaussée. Il existe dans l'histoire ancienne une fille classique, je ne garantis pas le fait, qui a nourri son père captif comme sa mère l'avait nourri elle-même. La petite Dorite, bien qu'elle appartînt à une souche moderne peu héroïque et qu'elle ne fût qu'une simple anglaise, fit beaucoup plus en consolant sur son innocente poitrine le cœur usé du doyen, et en y versant une fontaine d'amour et de fidélité, qui ne tarit ni ne s'arrêta jamais pendant de longues années de famine. Elle le calma, le supplia de lui pardonner si elle lui avait manqué, ou si elle avait semblé lui manquer de respect. Elle lui dit, Dieu sait avec combien de vérité, qu'elle n'aurait pas pu le respecter davantage quand il aurait été le favori de la fortune et reconnu pour tel par le monde entier. Lorsqu'il eut séché ses larmes et cessé de sangloter et de ressentir cette pointe de honte née d'un mauvais sentiment, quand il eut repris ses façons habituelles, elle réchauffa les restes du souper et, s'asseyant auprès de lui, fut ravie de le voir manger et boire. Car le vieillard, revêtu de sa vieille robe de chambre grise et de sa calotte de velours noir, avait retrouvé son allure magnanime. Et il était prêt à se comporter envers tout détenu qui aurait pu se présenter pour lui demander conseil, comme un autre Lord Chesterfield, le modèle des casuistes, ou comme le grand maître des cérémonies morales de la prison. Afin de le distraire, la petite Dorit entama une question de toilette. Le doyen daigna dire « Oui, vraiment, ces chemises, dont elle lui parlait, seraient fort acceptables, car les anciennes étaient usées, et comme elles avaient été achetées toutes faites, elles ne lui allaient pas. » Se sentant à présent en veine de causerie et de bonne humeur, il attira ensuite l'attention de sa fille sur l'habit accroché derrière la porte, remarquant que le père des détenus donnerait un assez mauvais exemple à ses nombreux enfants, déjà trop enclins à prendre des airs débraillés, s'il paraissait devant eux avec des coudes percés. Il plaisanta aussi sur les talons qui manquaient à ses souliers, mais il devint grave en parlant de sa cravate et lui permit de lui en acheter une autre dès qu'elle aurait amassé une somme suffisante. Tandis qu'il fumait paisiblement son cigare, elle arrangea le lit et mit la petite chambre en ordre pour la nuit. Alors le doyen, se sentant fatigué, vu l'heure avancée et les émotions qu'il avait eues, quitta son fauteuil pour bénir sa fille et lui souhaiter le bonsoir. Pendant tout cet entretien, il n'avait pas songé une seule fois à la toilette d'Aimé, ni à ses souliers, ni à nulle autre chose dont elle pouvait avoir besoin. Personne au monde, si ce n'est elle-même, ne s'inquiétait moins de ce qui manquait à la petite Dorit. Il l'embrassa plusieurs fois en disant « Dieu te bénisse, ma chérie. Bonsoir, mon enfant. » Mais le cœur aimant de la petite Dorit avait été si profondément blessé par ce qu'elle venait de voir et d'entendre qu'elle craignait de laisser son père seul, de peur qu'il ne recommençât à se lamenter et à se désespérer. « Cher père, je ne suis pas fatigué. Laisse-moi revenir tantôt, lorsque tu seras couché, m'asseoir près de toi. » Le père lui demanda, d'un ton protecteur, si c'est que la solitude lui pesait. « Oui, père. Alors, reviens, reviens tant que tu voudras, ma chérie. » « Je me tiendrai bien tranquille, père. » « Ne songe pas à moi, ma chère, » dit-il, en lui accordant avec bienveillance une pleine et entière permission. « Tu peux revenir, c'est entendu. » Il paraissait à moitié endormi lorsqu'elle revint, et elle arrangea tout doucement le feu presque éteint, de peur de le réveiller. Mais il l'entendit et demanda qui était là. « Ce n'est que moi, père. Aimé, mon enfant, viens ici, j'ai un mot à te dire. » Il se souleva un peu sur son lit, qui n'était pas très élevé, tandis qu'elle s'agenouillait auprès pour rapprocher son visage de celui de son père, dont elle prit la main dans les siennes. Oh, en ce moment, le cœur du père véritable et celui du père de la maréchaussée éclatèrent ensemble. « Mon amour, tu as mené une existence bien dure ici. Pas de campagne, pas de récréation, beaucoup de soucis, je le crains. Ne pense pas à cela, cher père. Moi, je n'y songe jamais. Tu connais ma position, aimé. Je n'ai pas été à même de faire grand-chose pour toi, mais tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. « Oui, mon cher père, » répliqua-t-elle en l'embrassant, « je sais, je sais. » « Me voici dans ma 23e année de mon séjour ici, » dit-il avec une sorte de hoquet qui était moins un sanglot qu'un témoignage involontaire d'approbation qu'il se rendait à lui-même, l'explosion momentanée d'une noble satisfaction. « C'est tout ce que j'ai pu faire pour mes enfants. mais je l'ai fait. Aimé, mon amour, tu es de beaucoup la mieux aimée des trois. Tu as toujours occupé la première place dans ma pensée. Tout ce que j'ai pu faire dans ton intérêt, ma chère enfant, je l'ai fait bien volontiers et sans murmurer. La sagesse suprême, qui tient la clé de tous les cœurs et de tous les mystères, peut seule savoir jusqu'à quel point un homme, surtout un homme avili, comme l'avait été le doyen, peut se laisser duper par lui-même. Il suffit, pour le moment, de dire qu'il se recoucha, les cils humides, l'air serein et majestueux, après avoir déposé, en guise de dot, sa vie de dégradation, aux pieds de la fille dévouée, sur laquelle cette existence avait pesé le plus lourdement, et dont l'amour l'avait seul empêché d'être moins avili encore qu'il ne l'était. Cet enfant ne se permit aucun doute ni aucune question. Elle était trop contente de le voir, la tête couronnée d'une auréole. Pauvre cher, bon cher père, le plus aimant, le plus tendre, le meilleur des pères. Ce furent les seules paroles qu'elle crut devoir lui adresser, tandis qu'elle cherchait à le calmer et à l'endormir. Elle le veilla pendant le reste de cette nuit, comme si elle se fût rendue coupable envers lui d'un crime que sa tendresse pouvait à peine réparer. Elle s'assit auprès du vieillard endormi, l'embrassant parfois doucement, en retenant son haleine et lui donnant dans un murmure les noms les plus caressants. Parfois aussi, elle se tenait à l'écart, de façon à ne pas intercepter la faible lueur du foyer, et le regardant lorsque la flamme tombait sur son visage assoupi, elle se demandait s'il avait alors quelque chose de cet air qu'il se vantait d'avoir eu dans ses années de prospérité et de bonheur, quelque chose de cet air qu'il s'était imaginé qu'il aurait encore à ce moment terrible dont l'idée avait tant ému sa fille. À la pensée de ce moment suprême, elle s'agenouilla de nouveau auprès du lit et pria « Oh Seigneur, épargnez ses jours, laissez-le vivre pour moi. Oh, ayez pitié de mon cher, cher père, qui souffre depuis si longtemps, qui est si malheureux et si changé. » Ce ne fut que lorsque le matin fut là pour protéger et encourager le captif qu'elle lui donna un dernier baiser et quitta la petite chambre. Quand elle se fut glissée sans bruit jusqu'au bas de l'escalier et le long de la cour déserte, quand elle fut remontée dans sa mansarde élevée, les toits sans fumée et les collines de la campagne éloignée ressortaient, au-delà le mur d'enceinte, sur le fond clair du ciel matinal. Elle ouvrit doucement sa croisée et regarda dans la cour de la prison, vers l'ouest, où les pointes de fer qui garnissaient le mur semblaient devenir rouges à leur extrémité et dessiner des raies violettes sur le soleil qui se levait resplendissant. Jamais elle n'avait trouvé ces pointes si aiguës et si cruelles, ces barreaux si lourds, la prison si lugubre et si étroite. Elle songea au soleil se levant sur des rivières rapides, sur de larges océans, sur de riches paysages, sur de grandes forêts où les oiseaux commençaient à se réveiller et les feuilles à frémir. Elle plongea le regard dans le tombeau vivant sur lequel le soleil venait de se lever, ce tombeau où gisait son père depuis 23 ans, et elle s'écria dans l'excès de sa tristesse et de sa compassion, « Non, non, ce n'est que trop vrai. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. »